Voilà, je suis très heureux de partager cette soirée avec vous et puis les autres qui viennent, puisque nous serons ensemble demain soir, samedi après-midi, samedi soir et dimanche matin. Béziers devient une ville chaleureuse, familière pour nos cœurs, mon épouse et moi, et Patette ne cesse de m'appeler maintenant le gitan blanc. Depuis que nous sommes en retraite, puisque nous avons décroché de nos responsabilités pastorales à Caen fin juin, nous travaillons plus qu'avant, on est aspirés par les gitans. Depuis le mois de septembre jusqu'à fin mars, le calendrier est rempli, nous sommes partout parmi les communautés évangéliques tziganes et nous sommes heureux de partager notre foi et notre joie. Alors mon épouse et moi, nous vous saluons très chaleureusement dans le nom du Seigneur Jésus. Et monsieur le maire, j'aimerais vous dire à quel point Béziers est cher à mon cœur. Et je vais vous dire pourquoi. Mon épouse qui est là ce soir n'était qu'une jeune fille que je ne connaissais pas, elle avait 16 ans. Et c'est dans votre belle ville de Béziers que mon épouse a trouvé la foi dans le Christ. Dans cette belle ville de Béziers, c'est la ville que je préfère sur le plan affectif de tout mon cœur. Et je voudrais dire deux mots pour dire que donner sa vie à Christ, c'est ce qu'il y a, je le crois, en tant que pasteur aujourd'hui, de plus merveilleux. Cette jeune fille de 16 ans a eu 18 ans. Et à l'âge de 18 ans, ma fiancée a été victime d'un acte malveillant. Une jeune fille déséquilibrée lui a jeté à la figure 2 litres d'acide chlorhydrique pur. Elle a été emmenée à l'hôpital de Rouen en urgence. Nous étions dans la région de Rouen à ce moment-là. Et quand mon collègue pasteur a visité ma future épouse, c'était encore les grandes chambres à plusieurs lits, une dizaine de lits. Il a fait le tour de la chambre, il ressortait, il ne l'avait pas reconnue. Le visage avait gonflé au double, la lèvre supérieure atteignait le nez, et quand cet homme est rentré chez lui, il a dit à son épouse, « Madeleine est défigurée pour la vie ». Mais le soir, il y avait un rassemblement de croyants dans l'église évangélique de Rouen, des gens remplis de foi qui savent que si Dieu existe, c'est un Dieu qui peut tout. Alors ils ont prié de tout leur cœur. Et au bout de 3 jours, le visage a repris ses dimensions normales. Il s'est formé des croûtes qui sont tombées d'elles-mêmes et sous les croûtes, la peau était absolument normale. Quand cet regrettable accident est arrivé, c'était au mois de juillet 1968, ma fiancée était bras nu, elle a reçu une goutte d'acide sur le bras, et là, sur le bras, la peau est restée brûlée sur la surface d'un centimètre carré. Quand nous parlons de ces choses, nous disons que c'est la signature de Dieu. Si Dieu n'était pas intervenu, tout le visage restait brûlé. Mais je crois au Dieu du miracle, un Dieu d'amour, un Dieu plein de bonté. Je n'ai pas une religion, j'ai une relation. Jésus-Christ n'est pas une religion, il est une relation. Il a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient à Dieu le Père que par moi ». Et pour reprendre l'expression de l'apôtre du 1er siècle, nous disons « Je sais en qui j'ai cru ». Nous avons établi notre vie sur un fondement solide. Nous marchons avec Dieu chaque jour. Il est une réalité dans notre vie et nous bénissons Dieu pour cela. J'aimerais lire avec vous le texte dans la Bible qui va servir de base pour les 5 rendez-vous que nous aurons ensemble. Nous lisons ou écoutons la lecture dans l'épître de l'apôtre Paul à l'église d'Éphèse, au chapitre 3, verset 1er. « À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ pour vous, païens, Il interrompt sa phrase et il la reprend au verset 14. « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agite en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Et l'apôtre Paul a écrit ensuite « Amen ». Et nous le disons. Avant de vous adresser quelques paroles, j'aimerais que nous nous recueillions et que nous prions quelques secondes ensemble. Nous te remercions pour l'immense privilège d'avoir découvert la foi et d'avoir pu bâtir notre vie sur toi. Tu ne nous as jamais déçus, Seigneur. Et ce soir, nous t'adressons notre reconnaissance profonde, un grand merci pour ton amour, ta bonté et ta fidélité. Un grand merci pour cette soirée que nous vivons ensemble. Nous l'avons dit et redit déjà ce soir dans l'esprit d'amour, de fraternité. Et nous te demandons toute ta grâce dans cette soirée-là. Nous prions pour le maire de cette ville qui est au milieu de nous, pour le sénateur qui est là, Seigneur. Que tu bénisses abondamment leur vie, que tu les bénisses dans leurs responsabilités locales, dans leur travail pour la région, le pays. Nous prions pour les équipes qui travaillent autour d'eux, que tu donnes compétence, capacité à chacun. Nous avons besoin, Seigneur, dans ces temps difficiles, de voir ton secours et ta grâce dans une société qui a besoin de toi. Bénis cette ville de Béziers, Seigneur. Tu sais tout ce qui a été évoqué en cette soirée. Et nous savons que tu es un Dieu rempli d'amour et de grâce, capable de secourir chacun de nous. Tu connais nos besoins à chacun. Et je te remercie de ce que tu es celui qui exauce la prière. Amen. Je ne vais pas être très long ce soir, c'est une soirée un peu spéciale, vous l'aurez compris. Simplement, vous annoncez le thème de cette mission que nous avons ensemble. C'était le souhait de l'apôtre Paul. Je ne pense pas que ce soit un souhait démesuré, une utopie, mais il priait pour que ces premiers croyants du premier siècle soient remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Se peut-il qu'un être humain faible, qui a ses problèmes de tous les jours, ses combats, arrive à un stade dans la foi où il peut expérimenter ce que la Bible lui offre ici comme programme extraordinaire, être rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Je m'adresse ce soir à des croyants qui connaissent leur Bible. Vous savez qu'au chapitre 1er de l'Épître aux Éphésiens, l'apôtre Paul a décrit notre héritage en Christ. Il nous montre toutes les bénédictions qui s'attachent à une vie bâtie, établie sur le Christ. Et après cela, l'apôtre Paul adresse une ardente prière à Dieu pour que Dieu illumine les yeux du cœur de ses croyants, pour qu'ils sachent tout ce qui s'attache aux bénédictions contenues dans le Christ pour eux. Au chapitre 2 de cette même lettre, l'apôtre parlera du salut de l'être humain en Jésus-Christ. Il parlera du chef-d'œuvre qu'est l'Église, ce rassemblement des croyants, quelle que soit leur culture, leur race, il n'y a plus de clivage. Dieu rassemble en Jésus-Christ les croyants unis par la même foi et la même vie. Et après avoir parlé de cela, Paul, nous l'avons lu, fléchit les genoux devant le Père, afin de demander en faveur des chrétiens une suprême grâce, qu'ils soient fortifiés dans l'homme intérieur par le Saint-Esprit, que Christ habite dans leur cœur par la foi et qu'ils comprennent l'amour infini de Dieu. Quand je vous disais tout à l'heure que Dieu nous transporte bien au-delà d'une religion, nous y sommes. Il s'agit dans le désir de Dieu de voir le Christ habiter dans le cœur des croyants. Une véritable relation, une plénitude d'amour, une plénitude de joie, une plénitude de paix, une plénitude de certitude, une plénitude d'espérance. Et c'est par ces mots magnifiques qu'il a introduit sa lettre. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alors il prie pour que quelque chose de puissant s'opère dans la vie de ses croyants et qu'ils aillent plus loin avec Dieu. Je crois que cette prière est valable pour les chrétiens de toute race et dans tous les siècles. Trois choses rapidement. Pourquoi l'apôtre prie-t-il? Comment prie-t-il? Et que demande-t-il à Dieu? Pourquoi l'apôtre prie? Au chapitre 1er de la lettre, je l'ai dit, Paul demandait à Dieu pour nous chrétiens la révélation, l'illumination intérieure, pour que nous découvrions nos richesses en Christ. Il désire que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à l'appel de Dieu. Il désire que nous sachions quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Il désire que nous sachions quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par la vertu de sa force. Et maintenant, après avoir exposé en détail ses richesses en Christ, l'apôtre Paul prie pour leur réalisation dans notre vie, pour notre capacité à mettre la main. Et vous verrez pourquoi je dis cela dans les prochaines réunions, notre capacité à mettre la main sur ce que Dieu a en réserve pour nous. Cette nouvelle prière va faire la transition entre la première partie et la deuxième partie de l'épître. La première partie, les trois chapitres, on pourrait l'appeler la partie théologique, doctrinale, où l'apôtre expose des grandes vérités bibliques. Dans la deuxième partie de l'épître, c'est la partie pratique, concrète, c'est notre vie de tous les jours, c'est la façon d'exprimer notre foi, nos convictions chrétiennes à l'égard du prochain, dans la famille, dans le contexte professionnel, dans notre vie de tous les jours. Et l'apôtre introduit sa prière en disant « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père ». À cause de toutes les glorieuses vérités qui précèdent, à cause de tout ce que je vous ai enseigné, à cause de votre position d'enfant de Dieu, à cause de votre vocation d'enfant de Dieu, à cause de votre salut par grâce, à cause du mystère de l'Évangile, je prie pour vous, je fléchis les genoux devant le Père. Je voudrais qu'au fil de ces réunions, nous arrivions à cette conviction et cette compréhension que c'est dans la mesure où nous allons permettre à Dieu de nous remplir jusqu'à toute sa plénitude, que nous serons capables d'accomplir les œuvres mentionnées dans la deuxième moitié de cet épître. C'est Dieu qui peut nous rendre capables d'être des hommes et des femmes de Dieu comme il le désire au sein du monde dans lequel nous nous trouvons. Comment l'apôtre prie-t-il ? Il dit « Je fléchis les genoux ». J'ai essayé d'imaginer ça. Nous sommes au premier siècle, dans sa cellule de prisonnier, cet apôtre du Christ a les chevilles enchaînées. Il est relié à un soldat romain. Et pourtant, il dit « Je fléchis les genoux ». Quelle expérience pour le soldat romain enchaîné à Paul, de voir cet homme d'un certain âge qui, à cause de sa foi, en a connu de toutes sortes, des coups, des emprisonnements, toutes sortes de persécutions, de calomnies, à cause de sa foi dans le Christ. Mais il tient bon. Et regardez-le dans sa prison, nous avons tous nos coups durs. Échecs, frustrations, maladies, deuil. Nous rions, mais nous pleurons aussi. Nous avons nos compagnies et nous avons nos moments de solitude. Nos moments d'espoir quand nous construisons ce qui brûle dans notre cœur comme projet, et puis ces moments de déception quand nous voyons les choses s'effondrer, des moments de solitude terrible quand nous nous retrouvons face à nous-mêmes. Cet apôtre du Christ est là, coupé de ses frères et sœurs dans la foi, ayant l'impression que tout est arrêté, que le temps s'arrête, qu'il n'y a plus d'espérance, mais le Christ est vivant dans son cœur. Il y a le soldat romain à ses côtés. Il y a les chaînes, et regardez-le, cet homme d'un âge certain, il fléchit les genoux devant le Père. Ce n'est pas seulement une attitude physique. On le connaît assez dans ce que la Bible nous révèle de lui pour savoir que dans ce moment-là, c'est tout son être qui fléchit. Il se courbe avec l'ardent désir que ce qui lui a été révélé nous soit aussi communiqué et devienne notre expérience. Regardez-le, cet homme, il fléchit sous le poids du fardeau spirituel. Je crois que les églises ont besoin de connaître ça. Non pas que nous soyons des chrétiens superficiels, insensibles, égoïstes. Je crois que nous avons un message d'amour et d'espérance à proclamer dans le monde. Je pense que nos amis seront d'accord avec moi. Nous avons du souci à nous faire pour demain. Notre terre ne va pas si bien que cela dans toutes sortes de domaines. Les générations s'inquiètent. Les jeunes ont raison de s'inquiéter. Je suis profondément bouleversé de voir que les statistiques de suicide touchent en majorité des jeunes de moins de 18 ans. Ils ont la force. Ils ont le potentiel, ils auraient un avenir, mais beaucoup aujourd'hui désespèrent. Un jeune disait à un journaliste qui l'interrogeait sur l'avenir, il a dit « L'avenir, monsieur, mais il est derrière moi, un jeune. » Nous vivons dans un monde qui cherche, nous vivons dans un monde qui se cherche, nous vivons dans un monde qui a besoin de trouver des repères, des valeurs, une espérance vivante. Et il ne faut pas que nous, chrétiens, nous nous enfermions dans notre tour d'ivoire, dans notre petit confort égoïste, mais que nous réalisions cette vocation que le Christ nous a communiquée avant de remonter au ciel. C'est de partager l'Évangile autour de nous. Et je bénis Dieu de ce que l'Évangile, je dis bien l'Évangile, le message du Christ, reste dans ce début de 21e siècle. Dans ce troisième millénaire, l'Évangile reste une puissance de Dieu qui change les vies. Il y a quelques dizaines d'années d'expérience pastorale derrière moi, et je bénis Dieu pour tous ceux et toutes celles qui sont arrivés cassés en 1000 morceaux devant l'Évangile. Cassés physiquement, psychologiquement, affectivement, cassés sur le plan spirituel, et que Dieu a reconstruit, relevé par la puissance de sa grâce. Dieu est un Dieu merveilleux. Et je comprends que ce même apôtre pouvait dire « Je n'ai pas honte de l'Évangile ». C'est une puissance de Dieu pour sauver quiconque croit. Ce n'étaient pas des fanatiques. Oh non, ces jeunes gens qui ont été brûlés à Lyon dans les siècles passés. Ces jeunes gens forts dans la foi, étaient brûlés vifs sur la place de Lyon. Mais ils tenaient bon parce qu'ils savaient en qui ils avaient cru. Ces chrétiens du premier siècle, qu'on livrait sur les croix, qu'on livrait dans les arènes de Rome, n'étaient pas des fanatiques. C'étaient des pères, des mères, comme vous et moi, qui savaient rire et pleurer, qui savaient espérer et qui étaient aussi parfois dans des situations de déception. Ils avaient leur combat comme vous et moi. Qu'est-ce qui les faisait tenir bon, même dans l'arène en face des lions? Le fanatisme du christianisme? Pas du tout. Une espérance qui dépassait la terre. Une espérance qui dépassait le contexte terrestre avec toutes ses limites et qui faisait qu'il y avait une dimension en eux que Paul désire ici pour chacun de nous, être rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Il n'y a pas de honte à genoux à prier pour cette génération. Ô Seigneur, que les jeunes sans espoir connaissent ta grâce. Je vais employer un discours très simple. Non pas qu'ils connaissent notre religion évangélique, c'est pas notre message, mais qu'ils te connaissent toi. Et qu'en ayant une relation avec toi, ils découvrent la vie. Ô Seigneur, sauve les adultes, sauve les âgés qui arrivent en fin de vie, sans espoir, qui sont déjà morts intérieurement avant de l'être physiquement. Agis, Seigneur, dans toutes les sphères de la société où il y a tellement de besoins, tellement de problèmes. Seigneur, viens agir. Paul souhaitait cela, non pas une église insensible. Lui, il fléchissait les genoux avec un fardeau dans le cœur. Ne tombons pas dans le danger de demeurer dans un état d'enfance spirituelle. Ne tombons pas non plus dans le danger de nous contenter d'une connaissance intellectuelle stérile des choses de Dieu, sans entrer d'une manière concrète en possession de ces richesses spirituelles. Nous ne pouvons pas nous contenter de connaissances. Il faut la vie. Dieu n'a pas besoin d'un peuple qui connaît plein de choses avec sa tête. Il a besoin d'un peuple qui est rempli de l'amour dans le cœur. Que vous puissiez comprendre, écrit Paul, quelle est l'infinie grandeur de l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Voilà la raison pour laquelle Paul priait. Et enfin, qui priait-il? Et j'ai fini pour ce soir. Je fléchis les genoux devant le Père. Dès le début de sa prière, l'apôtre souligne en la personne de Dieu deux traits qui vont assurer son exaucement. D'abord, il prie le Père. Et je m'adresse aux croyants éclairés de ces choses. Vous savez que dans la Nouvelle Alliance, la prière est adressée au Père. Au travers des mérites du Christ et par l'Esprit de Dieu. C'est le privilège de la nouvelle alliance dans laquelle nous sommes entrés. Quand je lis un texte dans le livre des psaumes, dans le psaume 95, je découvre ceci. Le psalmiste dit « Venez, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Dans l'Ancienne Alliance, on pouvait s'adresser à Dieu comme au Créateur. On fléchissait le genou devant le Créateur. Et Dieu est le Créateur de tous les êtres humains. Mais dans la Nouvelle Alliance, dans sa cellule de prisonnier, l'apôtre saint Paul fléchit les genoux devant le Père. C'est le privilège de la Nouvelle Alliance. Lorsque nous l'invoquons en la personne de Jésus-Christ, Dieu ne nous apparaît pas comme le juge redoutable, mais comme le Père. Cela sous-entend amour, tendresse, compréhension pour ses enfants. D'ailleurs, la famille du Père, je vais dire une banalité, ce sont tous ceux qui sont fils et filles de Dieu. Par la foi en Jésus-Christ, par leur nouvelle naissance, leur conversion authentique, non pas une adhésion à une religion, non pas une émotion religieuse passagère, mais une véritable régénération, une transformation de vie, ce que l'apôtre Paul, le Seigneur Jésus, appelait la nouvelle naissance. Les fils et les filles de Dieu, ce sont ceux qui se réclament de lui, qui le servent, qui l'adorent et qui forment de ce fait une famille dont Paul dit qu'elle tire son nom de lui, c'est-à-dire sa nature, son caractère, sa vie. Je le répète, Dieu est le Créateur de tous les hommes, mais il n'est le Père que de ses enfants, et ce Père accueillera favorablement la prière de l'apôtre. Il fléchit les genoux devant le Père, et si nous fléchissons nos genoux devant lui comme il le désire, il exaucera notre prière. Et il dit qu'il vous donne, et on va sortir de là encouragé, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié dans l'homme intérieur. Notre Dieu est prêt à agir envers nous. C'est déjà une solide garantie. Puis j'aimerais vous le dire, notre Père n'est ni pauvre, ni avare. La Bible dit que Dieu est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Je ne suis pas en train de vous parler de votre porte-monnaie. Hein. Je ne prêche pas l'évangile de la prospérité matérielle. Je crois que Dieu est capable de prendre soin de nous, mais jamais la Bible n'a promis que si nous nous attachions à Dieu, nous serions riches des richesses matérielles. Ce n'est pas de ça dont la Bible parle. Ça, c'est une corruption évangélique, ça. Et nous ne sommes pas dans cette ligne-là. Nous parlons des richesses morales, nous parlons des richesses spirituelles. L'apôtre Jacques a écrit que Dieu donne à tous simplement et sans reproche. Dieu peut donner. Dieu veut donner royalement, selon ses moyens infinis, selon sa gloire souveraine. Je crois qu'il faut que nous osions lui demander beaucoup. Et il saura répondre. Réfléchissez, on va se revoir dans les 4 prochaines réunions. Qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Que Christ habite dans vos cœurs par la foi et que vous puissiez comprendre les 4 dimensions de l'amour de Dieu. Profondeur, hauteur, longueur, largeur. Un amour qui surpasse toute connaissance. C'est ce que Dieu veut déposer dans nos vies. Dieu fait des choses inouïes. Je voudrais terminer par un témoignage très court. Il avait 76 ans, ce petit grand-père de Basse-Normandie. Marin au long cours, il n'avait pas navigué que sur les eaux. Il avait entendu parler de nous, les pasteurs évangéliques qui prient pour les malades. Et puis, il était en phase terminale d'une cirrhose du foie. Quand je l'ai visité dans sa petite maison de Basse-Normandie, il avait un ventre énorme. On lui enlevait 2 fois par semaine 4 litres du ventre. Quand je l'ai visité, il avait le nombril comme une balle de tennis. Et les médecins avaient dit, le médecin avait dit à son épouse, dans 15 jours, il va sombrer dans le coma et c'est fini. C'était une phase terminale de cirrhose du foie. Ayant entendu parler de nous, il m'a fait venir. Alors il est sorti à petits pas, comme ça, de sa chambre. Et j'ai bien senti que cet homme n'était pas capable d'entendre un discours aussi long que le mien ce soir. Pardonnez-moi. Alors en quelques phrases très courtes, je lui ai dit, écoutez, l'évangile c'est simple, c'est un Dieu qui existe, qui nous aime, qui a envoyé le Christ dans un corps semblable au nôtre. Jésus est mort sur une croix, ce n'est pas une erreur judiciaire, ce n'est pas un accident de l'histoire. Jésus venait pour ça. Alors parfois je le dis dans un langage qui n'est pas très théologique, je dis il est venu payer la casse pour tout le monde. La Bible dit qu'il a pris sur lui nos péchés, nos maladies, nos infirmités. Et ça ne s'est pas arrêté sur une croix, ça ne s'est pas arrêté dans un sépulcre. Jésus est ressuscité, Jésus est vivant. Et je lui ai écouté, moi je crois ça. C'est pas un conte de fées, c'est la réalité de l'amour de Dieu pour l'humanité. Est-ce que vous le croyez? Non, c'est pas à vous que je pose la question, c'était à lui. Alors il m'a dit oui. Et je me suis dit, ça c'est bon. Et vous savez, avant de remonter au ciel, le Christ a demandé à ceux qui prêchent l'évangile de prier pour les malades en leur imposant les mains. Et moi, pasteur, je prie pour les malades en leur imposant les mains. Mais je ne suis pas un guérisseur. Je n'ai pas de fluide. Nous avons le respect de la médecine. Ce n'est pas un exercice illégal de la médecine. Nous rendons grâce à Dieu pour les médecines, la médecine, pour les médecins, pour les spécialistes. Nous sommes tout à fait d'accord pour que les gens se soignent. Il n'y a rien de charlatanisme là-dedans. Mais cela dit, en tant que pasteur, serviteur de Dieu, ayant la foi, je peux prier pour vous en vous imposant les mains au nom de Jésus, comme il a demandé de le faire. Est-ce que vous voulez croire ça? Il m'a dit oui. Alors j'ai prié pour cet homme, très simplement et très courtement, encore plus court que le discours que je lui ai tenu. Puis il est retourné à petits pas dans sa chambre, et moi je suis rentré chez moi. Le lendemain, nous avions une réunion autour de l'évangile, cet homme est venu avec sa femme. Le dimanche, il est revenu à la réunion avec son épouse, le ventre plat comme une galette. Et elle, vous savez, pasteur, mon mari est guéri. Alors, c'est pas que j'ai pas la foi, il faut être sage quand même, hein. Pas affirmer les choses comme ça. On n'est pas des charlatans. Il faut quand même des preuves médicales, il faut des choses sérieuses. Le lendemain, le médecin vient. « Qu'est-ce qui vous est arrivé ?»« Voilà l'homme avec le ventre. »« Ah, mais on a fait venir un pasteur, il a imposé les mains à mon mari et mon mari est guéri. » Le médecin, des yeux comme ça, on le comprend. Il a dit « Ouh là là, on va faire toutes les analyses, tous les examens. » Alors on a fait toutes les analyses, tous les examens, je ne sais pas s'il y a des gens du corps médical ici, mais dans ce genre de situation, vous savez que les gamma GT sont très élevés. Les analyses reviennent, tout normal. 15 jours après, il n'était pas mort. Un mois après, il était en pleine forme. Il a continué à venir dans nos réunions, il a placé sa foi dans le Christ, il a vécu des années. Il a été guéri instantanément d'une cirrhose du foie en phase terminale. Ça fait plus de 40 ans que je prêche l'évangile. C'est un témoignage parmi beaucoup de témoignages. Pour moi, Dieu n'est pas une idée, ce n'est pas un concept, ce n'est pas une idée religieuse, c'est une vie. Dieu vit et nous vivons avec lui. Nous établissons une relation avec lui. Gloire à Dieu. Alors il veut nous bénir ce soir, qui que nous soyons, faire cette découverte qu'il peut nous fortifier dans l'homme intérieur. Et son programme, c'est de nous amener jusqu'à sa plénitude. Nous allons une dernière fois, pour ce qui me concerne, nous recueillir et prier.